nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1954, le grand réalisateur Alain Trutat, qui est de ceux qui façonnèrent la singularité et l'esprit de France Culture, mettait en onde cette émission conçue comme cette journée de la vie et des aventures de Don Quichotte de la Manche, l'ingénieux Hidalgo. C'est l'écrivain, scénariste, parolier de chansons, pour Reggiani ou Yves Montand, Albert Vidali, qui avait adapté pour la radio l'œuvre de Cervantes. Je vous propose d'écouter la 7e et dernière journée de cette espagnolade très enjouée, dont les textes avaient été, bien entendu, confiés à d'immenses comédiens.
La radiodiffusion télévision française présente « Vie et aventure de Don Quichotte de la Manche, l'ingénieux Hidalgo », d'après l'œuvre de Miguel Cervantes Saavedra, aujourd'hui, dernière journée, avec Roger Blin dans le rôle de Don Quichotte et Olivier Husnault dans celui de Sancho Panza. Participent également à cette émission Arthur Allant, François Chaumette, Jacques Dufilot, Pierre Leproux et Christian Lude. Avec La Rossellito, Manolo Leiva, Marolo Hachil, Juan Relampago, Lorenzo Carcabel et Cyril Dive. Prise de son, Guy Louvet. Bruitage, Robert Mofra. Tout en discourant de leurs aventures passées avec le chevalier défunt et les prêtres qui l'accompagnaient, l'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, et son écuyer Sancho Panza continuèrent leur chemin. Sancho fit remarquer qu'il était l'heure de dîner. Son maître lui répondit qu'il ne se sentait point d'appétit, mais que lui pourrait manger tout à sa fantaisie. Alors Sancho s'installa du mieux qu'il put sur son âne, et il déjeuna, dîna, goûta et soupa tout ensemble, contentant son estomac avec bonne quantité de viande froide, dépouille de messieurs les prêtres, lesquels se laissent rarement souffrir, et que Sancho avait prudemment dévalisé. Ainsi allait Sancho, cheminant et mangeant tout à loisir derrière son maître. De temps à autre, il portait l'outre à sa bouche, bien goulûment, et tandis qu'il marchait ainsi, avalant un coup sur l'autre, il ne se souvenait plus d'aucune promesse que son maître lui eût faite et regardait, non comme un rude métier, mais comme un vrai délassement, d'aller chercher les aventures, quelque dangereuses qu'elles fussent. Bref, ils passèrent cette nuit sous les arbres. Don Quichotte arracha une branche sèche qui pouvait au besoin lui servir de lance et y ajouta le fer de celle qu'on lui avait rompue. De toute la nuit, notre chevalier ne dormit point, pensant à sa dame Dulcinée, afin de se conformer à ce qu'il avait lu dans ses livres, que les chevaliers errants passaient des nuits sans dormir, au milieu des forêts et des déserts, s'entretenant du souvenir de leur dame. Sancho ne la passa pas de même, car il avait l'estomac plein et non pas de jus de chicorée. Au matin, à peine levé, il donna une accolade à l'outre, mais il la trouva un peu plus légère qu'au soir, ce qui l'attrista, car il ne lui semblait pas qu'on prît chemin de remédier bientôt à ce défaut. Quant à Don Quichotte, il ne voulut pas déjeuner, préférant se repaître de doux et savoureux souvenirs. Là-dessus, ils grimpèrent sur leur monture et sans prendre aucun chemin déterminé pour mieux se mettre à l'unisson des chevaliers errants, ils recommencèrent à marcher par où les menait la volonté de Rocinante. Or, comme ils allaient ainsi, toujours cheminant, Sancho dit à son maître.
votre grâce me permettra-t-elle de deviser un peu avec elle ? Car j'ai sur le bout de la langue une chose que je ne voudrais point voir perdre.
Dis-la, Sancho, mais sois bref en tes discours. Aucun n'est agréable s'il est long.
Eh bien, voici, monsieur. Depuis quelques jours, j'ai considéré combien on gagne peu à chercher des aventures et quels que soient les dangers que l'on affronte et les victoires que l'on remporte, nul ne les voit et les connaît. Vos exploits demeurent à jamais enfouis dans un silence perpétuel au grand détriment de votre grâce. Alors il me semble qu'il serait plus à propos que nous allassions servir quelque empereur ou autre grand prince au service duquel votre grâce put montrer la valeur de son bras, ses grandes forces et son entendement supérieur.
Tu n'as pas mal parlé, Sancho, mais écoute. Avant d'en arriver là, il faut aller par le monde cherchant les aventures, afin que le chevalier soit déjà connu par ses œuvres. Qu'à peine il ait franchi les portes d'une ville, tous les enfants le suivent et l'entourent, criant « Voici le chevalier du soleil !» ou bien « Le chevalier du serpent !» Celui qui a vaincu en combat singulier l'effroyable géant Brocabruno, celui qui a désenchanté le grand Mameluk de Perse. Et ainsi, au tapage des enfants se joindra celui du peuple tout entier. Alors le roi se mettra au balcon, et reconnaissant celui qui s'avance, il devra s'écrier « Que tous les chevaliers qui se trouvent à ma cour sortent pour recevoir la fleur de la chevalerie qui s'avance !» Après cela, l'infante, la plus belle et la plus parfaite des demoiselles, jettera les yeux sur le chevalier et le chevalier sur l'infante. Et sans savoir ni comment ni pourquoi, ils demeureront pris et enlacés dans les raies inextricables de l'amour. Et le cœur percé d'affliction, de ne savoir comment se parler pour se découvrir leurs sentiments, leurs désirs et leurs peines. Alors soudain, on verra entrer par la porte de la salle un affreux détestable nain et une belle dame avec deux géants, avec au bout de cela une certaine aventure préparée par un très ancien sage et telle que celui qui la mènera à bonne fin sera tenu pour le meilleur chevalier du monde. Et seul d'entre tous les chevaliers, c'est le chevalier étranger qui réussira à y mettre fin, au grand contentement de l'infante. Puis, à travers un treillis, le chevalier prendra congé de l'infante qu'il a déjà rencontrée secrètement plusieurs fois grâce à la complicité d'une suivante. Le chevalier part combattre le plus dangereux ennemi du roi. Il vainc cet ennemi, il gagne des villes, il triomphe dans des batailles et glorieux revient à la cour. Il retrouve l'infante au lieu accoutumé, et tous deux résolvent qu'il la demande pour femme à son père en récompense de ses services. Le roi refuse d'abord, puis il accepte, apprenant que le chevalier est fils d'un fort valeureux roi, de je ne sais quel royaume qui n'existe sur aucune carte. Le père meurt, l'infante hérite, et voilà le chevalier devenu roi. Alors, il récompense son écuyer et tous ceux qui l'ont aidé à monter si haut. Il marie son écuyer avec une demoiselle de l'infante, laquelle est fille d'un haut et puissant duc.
Ouf ! Nous y sommes ! Voilà ce que je demande ! Et carte sur table !
N'en doute point, Sancho ! Il ne manque plus maintenant que d'examiner quel roi a sur les bras une bonne guerre et une belle fille. Mais nous avons le temps de penser à cela, car il faut auparavant acquérir de la renommée. Tiens, quel curieux passe-temps.
Rocinante ne s'en désintéresse, mais mon âne ne se laisse plus tenir.
Observons, Sancho. Oui. S'il n'y a quelque diablerie là-dessous.
Je vous assure, compère, cette ruse nous permettra de découvrir votre âne, fût-il caché dans les entrailles du bois, dans les entrailles de la terre. Je sais braire à merveille, et je crois que vous avez aussi quelque peu de talent.
Quelque peu, dites-vous? Par Dieu, j'espère que personne n'aura à m'en revendre, pas même les ânes en chair et en os.
C'est ce que nous allons voir. J'ai résolu que vous alliez d'un côté de la montagne et moi de l'autre, de façon à en faire le tour. De temps en temps, vous brairez. J'en ferai de même. Il n'est pas possible que votre âne ne nous entende s'il est encore dans le bois.
La ruse est excellente et digne de votre grand génie. Allons.
Oh, 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 oh.
est-il possible que ce ne soit pas mon âne que j'ai entendu braire ?
Non, ça n'est que moi.
Eh bien, de vous à un âne, il n'y a aucune différence quant au braire. Jamais je n'entendis âne plus doué.
Ces louanges vous appartiennent plus qu'à moi. Vous donnez le son haut et fort. Les notes aiguës viennent bien en mesure. Les reprises sont longues et nombreuses. À vous la palme.
Merci, mon ami, merci. Désormais, je m'estimerai davantage. Je me connaissais quelques talents pour le braiement, mais je n'osais croire à la perfection que vous dites.
Il faut dire qu'il y a dans le monde bien des talents perdus.
Les nôtres ne peuvent servir qu'en de rares occasions comme celle qui nous occupe. À moins d'être mort, mon âne ne peut manquer de braire en vous entendant. Ou bien ce n'est pas un âne.
Allons en route, Sancho. Le diable n'a que faire ici. C'est affaire d'homme.
Oui, allons, mon maître, car j'ai eu trop de peine à empêcher celui-ci de braire à son tour.
Ils en étaient là de leurs propos quand la fortune qui conduisait leurs affaires de bien en mieux leur fit découvrir une hôtellerie qui, en dépit qu'il en eût et au gré de Don Quichotte, devait être un château. Sancho s'entêtait que c'était une hôtellerie et son maître un château, et leur débat dura si longtemps qu'avant de l'achever, ils eurent loisir d'y arriver et le maître entra dedans avec toute sa caravane sans s'informer davantage. À peine était-il accueilli par une servante et quelques chiens qu'arrivait un homme tout vêtu de chamois, chausse, pourpoint et bas, et qui d'une voix forte apostrophait ainsi l'hôtelier, car c'était bien une hôtellerie.
Y a-t-il ici place pour loger ? Car voici le singe devin, et la représentation de la délivrance de Mélisandre.
Corps du Christ, voilà Maître Pierre. Il s'apprête pour vous une bonne soirée, messieurs. Soyez le bienvenu, Maître Pierre. Vienne le singe et les tréteaux. Il y a ce soir ici des personnes qui payent la vue et les talents du magot.
À la bonne heure, je modérerai le prix. Pourvu que j'y trouve mon écho, je me tiendrai pour bien payer. Cependant, je m'en vais chercher mon singe et faire monter mon théâtre.
Qui est ce maître Pierre, hôtelier? Et quels sont ce singe et ses tréteaux?
Ah, c'est un fameux joueur de marionnettes, seigneur. Et son singe est le plus ingénieux qu'on vit jamais. Car si vous lui faites quelques demandes, il dit la réponse à l'oreille de son maître qui la répète sur le champ. On paye 2 réaux par question si le singe répond.
Ah, voici toute la compagnie.
Tiens, Sancho, voici 2 réaux et donne-les à ce devin qui nous dise ce qu'il arrivera de nous.
Seigneur, cet animal ne donne aucune nouvelle des choses à vivre. Des choses passées, il en sait quelque peu, et d'à présent, à l'avenant.
Par la mort bleue, je ne donnerai pas un liard pour qu'on me dise ce qui m'est arrivé, je le sais bien. Mais puisqu'il sait les choses présentes, voici mes 2 réaux. Et dites-moi, seigneur Merci. Singe, ce que fait en ce moment Teresa Gutiérrez, ma femme.
As-tu entendu? Hop! Hein? Quoi? Que dis-tu? Oh, chevalier Don Quichotte de la Manche, appui des faibles, soutien de ceux qui tombent, un bras, bâton et consolateur de tous les malheureux, je vous baise les genoux. Et toi, oh bon Sancho Panza, le meilleur écuyer du meilleur chevalier du monde, réjouis-toi. Ta bonne femme Teresa se porte bien. En cet instant, elle peigne une livre de lin et elle tient à sa gauche un grand pot de vin avec lequel elle s'entretient durant son travail.
Oh, pour ça, je la vois bien. Et si elle n'était pas jalouse, je ne la troquerais contre aucune autre bonne femme.
Ah, celui qui lit et voyage beaucoup apprend et voit beaucoup. Comment, en effet, serait-on parvenu jamais à me persuader qu'il y a dans le monde des singes qui devinent, ainsi que je viens de le voir de mes propres yeux?
Seigneur Don Quichotte, pour votre agrément, je veux parachever l'installation de mon théâtre et récréer toute la compagnie dès que possible.
Don Quichotte, ébahi par les divinations du singe, n'était cependant pas fort satisfait, car il lui semblait qu'il n'était pas à propos qu'un magot qui devinait les choses passées et présentes, ignora les choses futures.
Les choses à venir, il ne le sait pas, si ce n'est par conjecture et fort rarement encore. À Dieu seul est réservée la connaissance des temps. S'il en est ainsi, il est clair que ce singe ne parle qu'avec l'aide du diable. Et je m'étonne qu'on ne l'ait pas traduit devant le Saint-Office. Tout est possible, l'avenir le dira. Car le temps découvreur de toutes choses n'en laisse aucune qu'il ne montre à la lumière du soleil, fût-elle cachée aux entrailles de la terre. Mais c'en est assez. Allons voir le théâtre du bon maître Pierre. Car je m'imagine qu'il doit offrir quelques curiosités.
Quelques curiosités ? Plus de 60 000 curiosités ? Mais voyez ! Chut. Voyez et écoutez. Fougrasse ! La véridique histoire que vous verrez ici représentée vous compte la délivrance que donna le seigneur Guy Féroce à son épouse Mélisandre, captive des Maures, dans la sombre cité de Saragosse. Voyez comme Don Guy Féroce joue là aux dames, comme nous l'apprend la chanson. Au jeu du tric-trac, il joue le mari qui n'a de Mélisandre nul souci. Ce personnage, qui paraît là, avec la couronne sur la tête et le sceptre à la main, c'est l'empereur Charlemagne, père putatif de cette Mélisandre, lequel, fâché de voir son gendre si insoucieux de sa femme, vient lui faire des reproches. Je vous en prie, regardez comme il le tasse. Il semble prêt à lui asséner quelques bons coups de sceptre sur le crâne. Il y a d'ailleurs des auteurs qui disent qu'il l'a fait. Alors, allons-y! Et après lui avoir dit toutes sortes de choses sur le péril que courait son honneur s'il n'essayait pas de délivrer son épouse, il lui dit « J'en ai dit assez, prenez garde. » Maintenant que vos grâces tournent les yeux du côté de cette tour que voilà, c'est l'Alcazar de Saragosse. Et cette belle femme, les yeux tournés vers la France et son époux, c'est la sans pareille et captive Mélisandre. Cette figure qui paraît à cheval de ce côté, enveloppée d'un grand manteau gascon, mais qui est-ce ? Mélisandre lui parle du haut de sa tour.
Cavalier, si tu vas au royaume de France, trouve Guy Féroce, fais cesser mes transes.
Voyez, l'homme se découvre. Voyez la joie de Mélisandre. Oh, elle l'a reconnu, c'est Guy Féroce en époutant chérie. Elle saute du balcon. Oh malheur! Un pan de sa jupe se prend à l'un des fers du balcon. Elle demeure pendue en l'air. Mais Don Guy Féroce saisit sa femme, déchire la jupe prisonnière et emmène la belle captive sur son cheval lennissant. Mais l'alarme a été donnée! Les cloches sonnent dans toutes les mosquées!
Ah, pour cela, non, pas de cloche dans les mosquées!
Que votre grâce, Seigneur Don Quichotte, ne fasse point attention à ces bagatelles! Voyez, voyez maintenant quelle nombreuse et brillante cavalerie sort de la ville à la poursuite des deux catholiques amants. Voyez les trompettes qui sonnent. Écoutez les timbales et les tambours qui résonnent. J'ai grand peur qu'on les rattrape et qu'on les ramène attachés à la queue de leur cheval. Ce serait un spectacle horrible. Oh là 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 là!
Je ne permettrai jamais que de ma vie, à ma présence, on joue un mauvais tour un aussi fameux cavalier. Un aussi hardi amoureux. Arrêtez, mes canailles. Ne les poursuivez pas plus avant, sinon vous aurez affaire à moi.
Oh, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, Seigneur Don Quichotte, arrêtez. Ceux que vous renversez, tuez, mettez en pièces ne sont pas de véritables ennemis, mais des poupées de carton. Mais prenez garde. Prenez garde, vous détruisez tout mon seul bien.
Je voudrais bien tenir maintenant devant moi tous ceux qui ne croient pas ou ne veulent pas croire à l'utilité des chevaliers errants de par le monde. Voyez un peu, si je ne me fusse trouvé ici, que serait-il advenu de la belle Mélisandre et de son preux Guy Féroce ? Il serait déjà rattrapé par les chiens. Vive la chevalerie errante, par-dessus toute chose sur cette terre.
Quelle vie, à la bonne heure, et que je meure, moi, sans théâtre, sans mon singe, car avant que je le rattrape, il me faudra suer jusqu'aux dents. Enfin,
C'est le chevalier à la triste figure qui devait me défigurer toute la mienne.
Oh, mais ne pleure pas, maître Pierre. Ne te lamente pas. Tu me fends le cœur. S'il s'aperçoit qu'il t'a fait quelque tort, mon seigneur Don Quichotte voudra te payer le double.
Cela est vrai. Mais quel tort vous ai-je fait à présent?
Et ce reste, ce débris gisant-là, à qui étaient ces corps, sinon à moi? Avec quoi gagnais-je ma vie, sinon avec eux?
À présent, je finis par croire, ce que j'ai déjà cru bien des fois, que ces enchanteurs qui me poursuivent ne font autre chose que me mettre devant les yeux les figures telles qu'elles sont, pour me les changer ensuite en ce qu'il leur plaît. C'est la faute des méchants qui me persécutent. Mais je veux moi-même me condamner aux dépens. Que maître Pierre voit ce qu'il veut demander pour les figures détruites.
Vous voyez combien il est impossible de rendre à ce roi son premier être. Donnez-moi pour sa mort fin et trépas. 4 réaux et demi.
Accordé. Continuez.
Pour cette ouverture, de haut en bas de l'empereur Charlemagne, oh le pauvre, il ne sera pas exorbitant de demander 5 réaux et 1/4.
Ce n'est pas peu.
On les lui donne, on ne va pas chicaner cette notable disgrâce.
Pour cette figure sans nez et borgne qui est celle de la belle Mélisandre, je demande...
Oh là, ce serait bien le diable si la belle Mélisandre n'était maintenant en France à se divertir avec son époux entre deux draps.
Hein? Ah oui. Oui, cette figure, en effet, ne doit pas être Mélisandre, mais quelqu'une des femmes qui la servait. Oui.
Alors
oui.
Viens, Sancho.
Au total, vous me devez 40 réaux 3/4.
Donne-les, Sancho.
Plus 2 réaux, pour la peine de repiquer mon singe. Hein?
Donne-les, Sancho. Hein? Non pour repiquer le singe, mais pour se piquer le nez. Et j'en donnerais volontiers 200 d'étrennes, à qui me dirait avec certitude que la belle Donia Mélisandre est arrivée en France avec son doux seigneur.
Duérmete, niño, duerme, que viene el coco.
Et ils quittèrent la taverne et se mirent en chemin, où nous les laisserons aller, car ainsi le faut-il faire pour avoir le loisir de raconter quelques jours d'autres choses relatives à l'intelligence de cette fameuse histoire. Mais pour cette année, l'auteur, sans doute, n'en veut pas dire davantage, estimant avec Sancho que l'abondance des choses, si bonnes qu'elles soient, empêche qu'on les estime, et que leur rareté, fût-elle mauvaise, leur vaut seul quelque prix. Quant au réalisateur de cette histoire, avec quelques curiosités et quelques soins qu'il ait recherché les hauts faits que Don Quichotte accomplit en ses nouvelles sorties, n'en ayant pu avoir aucune connaissance, au moins par des écrits authentiques, il a pensé que désormais la renommée conserverait seule dans les mémoires la suite des prouesses de notre héros. À moins que par fortune...
Ainsi s'achève « Vie et aventure de Don Quichotte de la Manche, l'ingénieux Hidalgo », d'après l'œuvre de Miguel Cervantes Saavedra. Avec Roger Blin dans le rôle de Don Quichotte et Olivier Husneau dans celui de Sancho Panza. Participaient également à cette émission Arthur Allan, François Chaumette, Jacques Dufilo, Pierre Leproux et Christian Lude. Avec La Rossellito, Manolo Leiva, Manolo Achil, Juan Relampago, Lorenzo Carcabel et Cyril Dive. Prise de son, Guy Louvet. Bruitage, Robert Moufra.
Cette émission avait été diffusée pour la première fois le 23 octobre 1954. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours à la page des nuits sur franceculture.fr. Thank you.